France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capuano, Sacha Mattei, Barthélémy Gaillard, Quentin Péchard et Antoinette Benoît, réalisée par Cassandre Puel. Et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Semo, notre partenaire du journal Le Monde. Bonjour Marc.
Bonjour Mélanie.
Nous reviendrons sur la situation en Argentine, 18 mois après l'arrivée au pouvoir de Javier Milei. Et alors que le président est en visite en Europe, où il ne manquera pas de vanter les mérites de son modèle. Mais qu'en est-il vraiment? Nous en discuterons avec nos invités. David Coppello qui est déjà avec nous, que je salue, bonjour.
Bonjour.
Et Mariana Heredia qui nous rejoindra en direct depuis Buenos Aires. Rendez-vous donc dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, place au retour de terrain. Bonjour Margot Ben.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Figaro, lauréate du prix Albert Londres en 2022 pour votre couverture de la guerre en Ukraine. Depuis des années, Margot Ben, vous enquêtez également sur les réseaux de l'État islamique et les filières qui ont continué à exister après la chute du califat en Irak. Et c'est en Somalie, dans la province désertique et montagneuse du Puntland, que l'organisation a établi son nouveau quartier général. Alors que la région était devenue la nouvelle plaque tournante du djihadisme mondial, attirant des combattants du monde entier, une opération menée par les forces de sécurité somaliennes en novembre 2024 a finalement réussi à éliminer ou chasser les djihadistes. La parole des habitants en Somalie, qui ont été forcés de vivre à leur côté, se libère et vous avez été une des premières journalistes à les recueillir sur place, comme celle par exemple de Mahmoud, qui fut sollicitée en 2019 par le groupe pour une urgence médicale. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ce jeune homme s'est retrouvé à soigner le chef du bureau somalien de l'État islamique?
Oui, alors j'ai rencontré ce Mahmoud qui aujourd'hui, enfin qui ne s'appelle pas Mahmoud d'ailleurs, à Bosaso, donc qui est la grande ville portuaire du Puntland. Et donc il m'a effectivement raconté cette histoire qui m'a par ailleurs été... dont les éléments ont été corroborés par certaines autorités en Somalie. Et donc lui, en 2019, donc il habitait dans un village des montagnes qui s'appelle Al-Miskad, au Puntland, et où s'étaient établis les combattants du groupe État islamique en Somalie. Ils avaient été retranchés dans ces montagnes depuis 2015, en fait, et ils avaient... Ils avaient cru, depuis lors, ils avaient engrangé pas mal de recrues et ils habitaient dans ces montagnes. Et donc un jour, voilà, il entend toquer à sa porte et il trouve quatre combattants dont un seul montre son visage. Deux d'entre eux étaient yéménites et ils exigent de Mahmoud qu'ils les suivent puisque Mahmoud est le seul soignant à des dizaines de kilomètres à la ronde. Et il a, voilà, dans sa petite échoppe des antidotes, par exemple, contre les morsures de serpent. Il fait des petites opérations mineures, etc. Donc, il est en mesure de soigner des maladies qui ne sont pas trop, trop graves. Donc voilà, donc lui comprend tout de suite de qui il s'agit. Il s'agit de combattants du groupe État islamique. Et ils exigent de lui qu'il prenne un antidote contre les morsures de serpent, sans dire qui a été mordu par un serpent. Il fait des kilomètres et des kilomètres, on lui bande les yeux, il fait des kilomètres en voiture, puis ensuite le groupe fait escale quelque part. On vide complètement sa sacoche. Il tente de tester tous ses appareils pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'explosifs. Et finalement, il fait encore des kilomètres à pied. Il ne sait pas trop en quelle direction puisqu'il a toujours les yeux bandés. Et finalement, il arrive sur une sorte de base qui a été établie par le groupe État islamique. Et sur cette base, il trouve un grand nombre de combattants, y compris des combattants étrangers, et un gigantesque bunker. Tout cela par ailleurs est confirmée, puisqu'aujourd'hui il y a une opération, on en parlera plus tard, mais il y a une opération en cours des forces somaliennes appuyées par des bombardements, des frappes de drones américains, et qui prouve qu'effectivement le groupe État islamique avait établi de très gros bunkers avec des générateurs.
Oui, ce sont des installations très sophistiquées qu'il vous décrit, équipées d'ordinateurs, de portables, de douches souterraines, tout cela alimenté par des panneaux solaires dissimulés sous la terre. Qu'est-ce que ça dit de la solidité de l'implantation de l'organisation? Qu'est-ce que ça dit aussi de l'importance de cette entité régionale qui s'est implantée en Somalie?
Alors, le groupe État islamique en Somalie a commencé, alors il a émergé en 2015, ce sont des combattants dissidents du groupe Al-Shabaab, qui lui est affilié à Al-Qaïda, et donc ces dissidents ont prêté allégeance au groupe État islamique. À l'origine, ils n'étaient pas nombreux du tout, quelques dizaines, et puis peu à peu, ils ont recruté, et puis ils ont été retranchés dans les montagnes, donc dans ces montagnes que je mentionnais, qui sont les montagnes Al-Miskad. Et en fait, dans ces montagnes, c'était une sorte de trou noir de l'information, on ne savait pas trop ce qui s'y déroulait, et il s'avère qu'en fait, le groupe État islamique est parvenu à recruter un grand nombre de combattants étrangers, si bien qu'en 2024, la moitié des effectifs, selon les informations qu'on a aujourd'hui, la moitié des effectifs, au moins, étaient étrangères. Et donc, c'était non seulement des combattants qui venaient d'ailleurs en Afrique de l'Est et centrale, mais c'était également des combattants, des vétérans du djihad, du Moyen-Orient, des Saoudiens, des Yéménites, des Marocains, etc. Et puis, il y avait même apparemment des Européens. Beaucoup aussi de membres de la diaspora somalienne en Occident qui étaient rentrés en Somalie pour rejoindre le groupe État islamique.
Donc l'homme, pour reprendre le fil de l'histoire de Mahmoud, l'homme qu'il vient soigner effectivement pour une morsure de serpent, c'est pas n'importe qui, c'est le chef du bureau local, il s'agit de Abdul Qadir Moumine, qui est donc l'émir de l'État islamique dans la région, qui est quelques mots sur cet homme et puis sur ce qu'il représente dans la nébuleuse, dans la hiérarchie de l'organisation.
Effectivement, donc c'est un ancien cadre des Shabab qui a fait défection et qui menait depuis le début cette faction somalienne du groupe État islamique. Et il est devenu petit à petit donc le principal financier du groupe État islamique en Somalie. Petit à petit, à mesure que le groupe a grandi, il est devenu le chef du bureau régional africain, puisque, alors juste pour faire une petite parenthèse, depuis la chute en gros du califat de l'EI dans la région syro-irakienne, l'EI a modifié sa manière de fonctionner, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, tout n'est plus centralisé sur un point, mais l'EI fonctionne par bureaux régionaux. Donc il y a par exemple le bureau régional afghan qui s'occupe de l'Asie centrale, de l'Asie, etc. Et puis le bureau Al-Qarar, donc qui lui était chargé, qui était une plaque tournante logistique et financière pour cette région du monde-là, c'est-à-dire l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, l'Afrique australe. Et donc Abdul Qadir Moumine est devenu, par la force des choses, le chef de cette plaque tournante financière logistique de l'EI pour cette région-là. Et il se trouve que en 2023, apprendrons plus tard, il est devenu le chef de ce que l'EI appelle son gouvernorat général des provinces, qui est une sorte, quartier général, oui, il faut mettre, il n'y a pas vraiment de quartier général de l'EI, il faut vraiment mettre des guillemets, mais qui est en gros la plus haute institution du groupe État islamique dans le monde. Donc on peut dire, donc aujourd'hui on ne sait pas, depuis Baghdadi, on ne sait pas qui est véritablement le calife du groupe État islamique, mais vu la manière dont fonctionne l'organisation aujourd'hui, c'est plus tellement le calife qui est la plus grande figure de l'organisation, c'est plutôt ce chef du gouvernorat général des provinces. Et donc, ce gouvernorat a été établi en Somalie, puisque déjà, personne ne s'intéresse trop à la Somalie, encore moins au Puntland, que les montagnes d'Al-Miskad sont extrêmement difficiles d'accès. Donc, personne vraiment n'avait accès à ces montagnes. D'ailleurs, on a appris bien plus tard que l'EI avait établi de gigantesques bunkers là, qui avaient énormément de, enfin, un grand nombre de combattants étrangers, etc., etc. C'est une zone stratégique qui est aux confins du Moyen-Orient, enfin le port de Bosaso donne sur le Yémen en face, de l'autre côté du golfe d'Aden. Donc il y a énormément d'échanges licites et illicites qui s'opèrent avec le Yémen. Donc voilà, de grandes possibilités de faire du commerce et d'importer des
juste pour resituer sur une carte géographiquement, ouais. Le Puntland de cette région de la Somalie, c'est vraiment la pointe
voilà.
qui donne sur le golfe d'Aden.
Exactement. Et le Puntland lui-même est une région semi-autonome de la Somalie, ce qui fait qu'en plus de tout cela et de cette position stratégique vis-à-vis du Yémen et de cette partie-là du monde, en plus de cela, on a affaire à une zone qui est quand même... enfin, qui échappe plus ou moins au contrôle de l'État fédéral somalien, dont les frontières sont extrêmement poreuses. Il y a énormément de trafic qui s'opère à ces frontières et énormément de corruption. L'État est très faible, etc. Donc, en fait, c'est l'endroit rêvé pour pouvoir établir vraiment une sorte de quartier général, comme on disait, de logistique, financier, faire venir des recrues. Il y a très peu de regard extérieur, en tout cas, sur cette zone.
Sauf que dans cette région montagneuse et difficile d'accès, ce qui est un avantage pour se dissimuler. Il faut quand même organiser le ravitaillement en matériel. Et pour cela, les combattants de l'État islamique passent par des intermédiaires locaux, comme par exemple Ahmad, que vous avez rencontré, qui est un commerçant local et qui leur fournit des panneaux solaires, des générateurs, des bâches, des téléphones. Comment Ahmad vit-il ce commerce ? Est-il à l'aise avec le fait d'effectuer des transactions avec l'État islamique ? Comment cela évolue dans le temps aussi ?
Alors oui, c'est ça, ce qui est très intéressant aussi. En plus, pour ajouter à ce qu'on disait précédemment, c'est que en Somalie, au Puntland notamment, les transactions financières se font quasi exclusivement par téléphone. C'est-à-dire que les opérateurs téléphoniques sont liés à des banques, en gros, pour faire simple. Et donc, on ne paye pas en liquide, on paye avec son téléphone. Et donc, on peut... Et donc c'est très facile comme ça d'échanger de l'argent, voilà. Et donc la manière dont opérait le groupe État islamique dans les montagnes notamment, c'était qu'ils identifiaient des commerçants qui avaient de bons réseaux dans cette grande ville portuaire de Bosaso, des fournisseurs donc, et donc ils commandaient des générateurs, des bâches, des téléphones, toutes sortes d'appareils électroniques, etc. À ces fournisseurs à Bosaso, ils passaient par les petits commerçants dans les montagnes dont Ahmed faisait partie, et donc il donnait du cash, du liquide à ces petits commerçants qui eux-mêmes payaient avec leur téléphone leur fournisseur, et donc il n'y avait aucune trace de transaction opérée par des membres de l'EI, des financiers de l'EI qui par ailleurs pour certains sont connus, et donc c'est comme ça qu'il fonctionnait. Et donc Ahmad avait été identifié parce que lui-même, bon, comme tout le monde se connaît un petit peu dans les montagnes et que les liens familiaux et claniques priment souvent sur l'idéologie, hein. D'ailleurs on en parlera peut-être après, mais un grand nombre des éléments somaliens du groupe État islamique ont rallié le groupe par intérêt financier ou parce qu'ils avaient des liens familiaux avec des hommes qui étaient déjà membres. Eh bien, lui, il avait des proches à Bosaso qui étaient également ses fournisseurs et qui ont mis en relation Ahmad avec le groupe État islamique pour qu'il fasse affaire, parce que c'était bon pour le business, tout simplement. Et donc lui me disait, au début, il n'avait aucune raison de s'y opposer, c'était bon pour les affaires, il n'avait aucune raison d'en vouloir au groupe État islamique. Et par ailleurs, il m'expliquait que au début, lors de son implantation, le groupe État islamique ne commettait pas tellement de massacres contre les civils. Ils donnaient des friandises aux enfants, ils organisaient des projections de films sur le djihad en Afghanistan, etc. Il y avait notamment des membres afghans du groupe État islamique, des vétérans du djihad au Moyen-Orient, mais également en Afghanistan. Donc ils montraient toutes sortes de films, voilà, sur la manière dont les djihadistes du groupe État islamique et autres d'ailleurs étaient en mesure de contrer l'Occident, etc., etc. Donc en fait c'était plus de la propagande qu'autre chose, et lui n'avait aucune raison de s'y opposer. C'est ensuite, à partir de 2019, quand le groupe État islamique a recruté de plus en plus et que beaucoup d'étrangers sont venus renflouer ses troupes, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu de plus en plus d'abus, notamment à l'encontre des civils, et c'est là qu'Ahmad a commencé à repenser un petit peu sa participation cohabitation, sa coopération.
Et vous racontez comment les djihadistes tentent d'imposer leur loi auprès des villageois. Il y a par exemple une tentative d'interdire la consommation de khat, qui est une sorte de plante que l'on mâche et qui a des effets comme une drogue, ce qui déclenche la colère des villageois qui obtiennent, je crois, gain de cause sur le khat. Par contre, sur la question des femmes, c'est plus difficile. On vous raconte que les hommes étaient obligés de divorcer et les femmes mariées de force à des combattants de l'État islamique. Et d'ailleurs, Ahmad raconte qu'il a dû faire partir sa jeune épouse précipitamment parce qu'elle était convoitée par un combattant.
Oui, effectivement. Donc, le groupe État islamique s'imposait dans les villages. J'ai des habitants qui m'ont raconté qu'à certains moments, ils étaient même plus nombreux que les villageois eux-mêmes. Et donc, en s'implantant comme ça dans les villages, eh bien, effectivement, ils prenaient des épouses. Donc, c'est effectivement des mariages forcés. Hein. Et donc, les femmes qui étaient déjà mariées, eh bien, elles étaient obligées de divorcer. Enfin, il y avait des divorces qui étaient organisés. Et donc, elle passait à ses combattants. Et donc Ahmad raconte effectivement que lui a eu pour consigne de faire venir sa femme à 8h du matin le lendemain pour qu'elle devienne la femme d'un grand dirigeant du groupe État islamique local. Il l'a refusé, il l'a envoyé à Bosaso, se réfugier, se cacher, et en représailles un chef local, un chef intermédiaire du groupe État islamique a ordonné qu'il soit puni de 40 coups de fouet. Et les châtiments là-bas donc étaient extrêmement cruels, hein, tous les villageois étaient sommés de venir voir les châtiments. Et donc effectivement, il a subi 40 coups de fouet puisqu'il avait refusé de donner sa femme à un membre du groupe État islamique. Alors pour la petite histoire, il se trouve, encore une fois, puisque tout est affaire de relations familiales et claniques, il se trouve qu'Ahmad est, de manière un petit peu lointaine, mais bon, quand même, lié familialement à l'émir du groupe État islamique, Abdul Qadir Moumine. Et donc lorsqu'il s'est plaint d'avoir été fouetté publiquement, il a été compensé pour sa dignité de 2000 dollars. Et lui avait l'air de me dire que ce n'était pas beaucoup, puisque d'autres avaient été plus largement compensés pour leur dignité. Donc voilà comment ça fonctionnait, des châtiments extrêmement cruels. Hein. Ce n'était pas que des coups de fouet, il y avait aussi d'autres châtiments autrement plus cruels. Des gens qui étaient torturés, etc., parce qu'ils refusaient de coopérer. Il y a des gens qui ont été tués, m'a-t-on dit, parce qu'ils avaient des images ou autres sur leur téléphone portable qui ne plaisaient pas aux chefs locaux, etc.
Et vous décrivez aussi des réseaux d'esclaves sexuels, en plus des femmes qui sont obligées d'être mariées à des combattants. En novembre 2024, les forces de sécurité somaliennes lancent une opération dite ILAC, qui signifie éclair, et donc contre les bases de l'organisation État islamique. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Est-ce que cette opération a été un succès? De quelle manière?
Ouais. Alors oui, l'opération avait été pensée depuis de longs mois, voire même plus d'un an, reportée à cause de problèmes politiques internes, etc. Elle a été véritablement lancée en décembre-janvier, en réalité. Et donc aujourd'hui, elle est en passe d'être achevée. Les forces du Puntland, les forces de sécurité du Puntland, ont repris l'essentiel du territoire que contrôlait l'EI. Dans les montagnes, ils ont par là même découvert toutes sortes de matériel qui avait été laissé derrière par les combattants, donc des passeports, des téléphones portables, des ordinateurs, des cartes bancaires, etc., qui permettent quand même d'obtenir pas mal de renseignements sur les réseaux du groupe État islamique et sur leur réseau au Yémen et ailleurs. Donc voilà.
Est-ce qu'on sait que ce qu'est devenu Abdul Qadir Moumine, le chef de l'État islamique, qui avait donc été mordu par un serpent, sauvé par ce villageois qui était ensuite monté en grade. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il est devenu?
Alors, j'ai deux ou trois sources concordantes au sein des autorités, mais aussi parmi des proches de membres du groupe État islamique qui m'ont dit qu'il aurait vraisemblablement fui au Mozambique, en passant par le Yémen puis l'Érythrée. Je n'en ai bien sûr pas la preuve, personne n'en a la preuve. mais vraisemblablement, il aurait fui. On me l'a confirmé. Et en revanche, d'autres cadres sont toujours en Somalie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que il apparaît que donc ce chef du directoire général des provinces est fui à l'étranger. En revanche, le chef qu'il avait remplacé à la tête d'Al-Qahar, donc du bureau régional, est resté en Somalie, probablement parce que ce hub logistique reposant en grande partie sur des transactions dématérialisées, donc ces paiements par téléphone portable, ces comptes en banque qui étaient, on imposait parfois à des hommes d'affaires locaux d'ouvrir des comptes en banque et de faire voyager un petit peu de l'argent comme ça, donc existe toujours à Bosaso, le commerce via le golfe d'Aden continue d'opérer, et donc il semblerait en tout cas que le bureau Al-Qahar subsiste toujours, que en tout cas la localisation de ce bureau est quand même très importante. Bon, sa localisation en Somalie est quand même très intéressante pour le groupe État islamique. Et donc, le fait que les effectifs de l'EI aient été repoussés, qu'un grand nombre ait été tué et qu'un grand nombre ait fui, ne veut pas dire que le bureau logistique et financier soit, lui, mort. Voilà. Et en tout cas, le directoire général des provinces, donc... son leader aurait fui à l'étranger et en tout cas il subsiste. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette opération Hilak est l'un le coup le plus important porté à l'organisation État islamique dans le monde depuis des années, probablement depuis la mort de Baghdadi en 2019. C'est en tout cas ce que pensent un certain nombre de chercheurs.
Merci infiniment Margot Ben. Votre reportage long format dans les montagnes du Puntland, l'ascension fulgurante, et la chute du quartier général de Daesh. C'est à lire sur le site du Figaro. On fera un lien sur la page de Culture Monde. Merci beaucoup. Le mythique groupe de funk somalien Durdur Band, fondé dans les années 80 à Mogadiscio et dont le label Analog Africa a réédité certains des albums en 2018. Ce titre-là s'intitule Hiyeli. Vous écoutez Culture Monde. C'est à présent la seconde partie de l'émission. On quitte la Corne de l'Afrique, direction l'Argentine.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Oui. Aujourd'hui, avec fierté et espoir, je peux vous dire que nous avons réussi l'épreuve du feu. Nous quittons le désert, la récession est terminée. Et le pays a finalement commencé à croître. Je vous remercie de m'avoir confié ce gouvernement. Nous nous rapprochons chaque jour de notre objectif. Que l'inflation soit un lointain souvenir. Chaque jour, nous nous rapprochons de la sortie finale du piège des taux de change. Ce piège est une aberration qui n'aurait jamais dû exister, mais qui va prendre fin grâce à nous en 2025, et pour toujours. Dans cette optique, nous travaillons à une solution définitive au problème des stocks de la Banque centrale. Cela se fera via un nouveau programme avec le Fonds monétaire international, mais aussi par le biais d'accords avec des investisseurs privés.
Le président argentin Javier Milei, qui se félicitait en décembre dernier de la reprise de l'économie argentine, la baisse de l'inflation ainsi que la perspective de nouvelles liquidités octroyées par le FMI, de quoi permettre au dirigeant ultralibéral actuellement en tournée en Europe de vanter ses recettes, voire son modèle. L'économie argentine est pourtant loin d'être tirée d'affaire, plombée par la faiblesse de sa monnaie, sa dépendance aux matières premières et la pauvreté qui touche 38% de la population. Les dernières élections locales qui se sont déroulées à Buenos Aires le 19 mai semblent toutefois indiquer qu'une partie de l'électorat continue de faire confiance au gouvernement. Alors, qu'en est-il exactement sur le terrain? Quels sont d'ores et déjà les effets de la politique du gouvernement Milei après 18 mois au pouvoir? On en discute avec David Coppello. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes politiste, maître de conférence à l'Institut catholique de Paris et chercheur associé au CREDA. Vous êtes l'auteur de Les droits humains armés, guérilla, dictature et démocratie en Argentine. Ça vient de paraître aux éditions de la presse universitaire de Rennes. Et nous sommes également avec Mariana Heredia qui est en direct avec nous depuis Buenos Aires. Bonjour.
Bonjour. Merci de vous voir.
Et nous vous remercions d'autant plus d'être avec nous puisqu'il est très tôt à Buenos Aires. Vous êtes sociologue, chercheuse au Conseil national de la recherche scientifique et technique, le CONICET, et professeure à l'école interdisciplinaire en hautes études sociales de l'université de San Martín, autrice de « À quoi sert un économiste ?» paru aux éditions La Découverte. Et on commence l'émission, comme chaque vendredi, par l'édito de Marc Sémo.
Merci Mélanie. Alors, la tronçonneuse comme promesse de coupe claire dans les dépenses publiques était l'emblème de campagne de cet économiste libertarien avec son slogan « Vive la liberté, bordel ». Surnommé Loco le dingue, Javier Milei avait très largement remporté les élections présidentielles de décembre 2023, cristallisant un immense ras-le-bol dégagiste contre des décennies de péronisme et d'incurie qui avaient fait plonger l'économie d'un pays qui était dans le peloton de tête des plus riches du monde il y a encore un siècle. Une fois installé à la Casa Rosada, et malgré son absence de majorité, il a en bonne part tenu parole. Il s'est lancé dans une sauvage thérapie d'austérité, réduisant les subventions aux provinces, imposant des licenciements de masse dans la fonction publique, taillant dans les retraites et les investissements dans la santé ou l'éducation. L'inflation était à 200%, elle est désormais à 55%. Le taux de pauvreté a explosé, puis il s'est réduit avec la multiplication d'emplois précaires. Les institutions financières internationales, dont le FMI, ont salué cette cure austéritaire, ce qui n'a rien d'étonnant. Mais les électeurs suivent, comme en témoigne la victoire de son parti aux élections partielles à Buenos Aires, et il pourrait remporter les législatives d'octobre prochain et disposer enfin d'une majorité. En cela, l'Argentine de ce proto-Trump du Rio de la Plata est un fascinant laboratoire politique. Mais les ombres de ce succès économique très fragile sont aussi nombreuses, avec notamment la montée en puissance d'une droite dure, ultra-conservatrice, dont sa ministre de l'Intérieur, Patricia Bullrich. Elle revendique son négationnisme sur les crimes commis par la dictature militaire entre 1976 et 1983, qui avait fait plus de 30 000 morts. Elle mise sur la loi et l'ordre et n'est guère regardante sur les moyens. Et elle est l'une des plus populaires du pays, avec 48% d'avis favorables, exactement comme le président Javier Milei.
Merci beaucoup Marc Sémo. Je vous propose qu'on commence avec les résultats de cette élection, alors partielle. Il s'agissait de la ville de Buenos Aires. En Argentine, il y a quelques semaines, le parti La Libertad Avanza a obtenu 30% sur un territoire qui était considéré jusqu'ici comme un fief de la droite classique, celle de Mauricio Macri. Est-ce qu'il y avait un enjeu national à cette élection locale? Et si oui, est-ce qu'on peut y voir une sorte de plébiscite, encore une fois, local, de la politique menée par Milei, David Coppello?
Oui, alors, la dimension nationale de ce scrutin était évidente dans la mesure où c'est la capitale, donc ça a quand même un fort poids symbolique. Alors, ce qu'on peut voir ici qui est très intéressant, c'est que finalement, le score du candidat mileiste de 30% ressemble beaucoup au score de Milei au premier tour de la présidentielle l'année précédente, qui était de 30% aussi, mais dans la capitale Buenos Aires, qui n'était pas forcément l'endroit qui lui était le plus favorable a priori. En fait, ce qui s'est joué dans ce scrutin de mi-mandat, au niveau législatif local, c'est un remplacement de la droite classique par la nouvelle droite radicale ou extrême milléiste. La droite donc milléiste est à 30% et la droite classique est à 15% dans un territoire qu'elle avait gouverné depuis presque une vingtaine d'années, ce qui est très frappant. En revanche, l'opposition péroniste, qui aujourd'hui est plutôt au centre-gauche, fait un score relativement normal sur ce territoire, qui est de 28%, donc juste derrière, ce qui n'est pas non plus catastrophique.
Il faut expliquer, Mariana Heredia, que la droite classique de Mauricio Macri est alliée avec la Libertad Avanza de Milei au niveau national. C'est grâce à cette alliance qu'il arrive à gouverner, puisqu'il n'a pas de majorité au Congrès. Or, la campagne a été, à en croire la presse, très tendue entre les deux droites à Buenos Aires. Est-ce que ça va... Quelles vont en être les conséquences au niveau national? Est-ce qu'il y a une rupture dans les deux droites? Est-ce que ça va entraver la marche du gouvernement dans les mois à venir?
Plutôt le contraire. En fait, ce qu'on observe, c'est que la plupart de l'électorat du centre-droite a décidé de d'épauler la politique du président. Donc, Mauricio Macri est obligé maintenant de faire des alliances un peu partout pour continuer à soutenir donc cette coalition. Parce que l'élection de la ville de Buenos Aires était une preuve pour voir si quand même il restait un leader d'importance, si les centres-droites pouvaient mettre des conditions, pouvaient soutenir une manière de faire les choses différentes, même si on soutenait la politique économique du gouvernement. La plupart de l'électorat, en tout cas la plupart de l'électorat des centres-droites, a décidé de suivre le président. Ce qu'il faudrait souligner aussi, c'est qu'une des choses les plus marquante de ces dernières élections, c'est que même en étant obligatoire les votes en Argentine, une très petite partie de la population est allée voter. Donc, ce qu'on constate, c'est aussi une sorte de désillusion par rapport à la possibilité des élections d'établir des changements, ce qui est aussi une victoire du président, puisque ça montre la faiblesse des autres positions qui n'arrivent pas à s'organiser et à faire front à cette initiative.
Une participation de 53%, ce qui est en effet relativement faible par rapport à d'autres scrutins. Juste pour bien comprendre ce que vous disiez, c'est d'une certaine manière l'avenir de la droite qui se joue à la fois dans une élection comme celle-ci, dans celles qui sont à venir à la fois au niveau local et les législatives surtout d'octobre qui vont renouveler une partie du Parlement au niveau national. On peut le prendre comme l'enjeu, pour essayer de saisir l'enjeu politique, c'est cette bascule de l'électorat qui pourrait passer de la droite classique à la droite radicale extrême de Milei, David Coppello.
Oui, alors je pense que ça on peut le voir sous deux angles. L'un, c'est l'angle de l'électorat qui effectivement, un électorat d'un centre-droite classique qui a basculé du côté du gouvernement milléiste. On le voit par exemple dans les quartiers chics de la capitale Buenos Aires, qui ont été des quartiers où on votait à 70% pour la droite classique macriste, dans lesquels, à ces élections-ci, donc je pense à des quartiers comme Belgrano, comme Recoleta, où on a vu des scores de 50-60% pour le candidat milléiste. Donc il y a un basculement d'électorat de la droite classique plutôt aisé, qui n'était pas forcément l'électorat de base du milléisme il y a un an et demi, vers le milléisme. Ça, c'est l'aspect électorat votant. Et puis il y a l'aspect partisans, je dirais, ou qui sont les candidats, qui sont les partis en compétition. Et là, on voit une explosion du paysage de la droite depuis un an et demi. Par exemple, on a mentionné déjà Patricia Bullrich, qui est ministre de la Sécurité de Milei, qui était la candidate de la droite classique au présidentiel il y a un an et demi, qui était au départ
favorite, etc.
Qui était la rivale de Milei, qui a eu des propos très forts contre lui, qui n'a pas accédé au second tour, et qui est devenue sa ministre très rapidement. Ils se sont réconciliés, etc., etc. Bullrich, il y a quelques semaines, a quitté le parti de la droite classique et adhéré à la Libertad Avanza, le parti de Milei. Donc on voit des changements, si vous voulez, d'ampleur dans le paysage politique, dans l'offre politique de la droite argentine aujourd'hui.
Marc Semo.
La cure austéritaire a été extrêmement rude. Et normalement, il aurait dû avoir, à certains égards, une sanction dans les urnes. Or, on voit que finalement, il maintient ses positions, voire les améliore. Alors, à quoi c'est dû? Est-ce que parce que cette politique a commencé malgré tout à donner quelques résultats, ou bien c'est toujours parce que le rejet de ce qu'avaient été ces décennies d'années du populisme péroniste et d'État assistentiel, etc., continue à rester encore un repoussoir pour une bonne partie des Argentins.
Mariana Heredia, sur cette question.
D'une part, il faudrait dire que c'est pas seulement une cure d'austérité, c'est vraiment une tronçonneuse qui est en train de détruire l'État argentin de l'intérieur. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus fort de ce qu'on a vécu auparavant. En même temps, comme vous disiez bien, il y a le soutien de certaines politiques pour les pauvres, pour soutenir les foyers les plus pauvres, qui restent en place et qui permettent de constater que avec la stabilité des prix et ce soutien de l'aide aux plus pauvres, la pauvreté, au lieu d'augmenter, a descendu. Donc, je pense, comme vous disiez bien, que les premiers effets de ces politiques se perçoivent comme positifs, puisque l'inflation est en plein descente, puisque ben voilà, le pays commence à reprendre sa croissance, au même temps qu'on observe très doucement, très lentement, comment la situation des travailleurs se dégrade et comment les services publics s'effondrent. Mais je pense que ça va être beaucoup plus clair d'ici 2, 3, 5 ans.
Justement, pour aller au-delà des chiffres sur le taux de pauvreté qui a donc été établi par l'Institut National et qui montre que après l'explosion de la pauvreté, on revient à peu près à un niveau d'avant la thérapie de choc 2000. J'ai pu lire dans la presse que ce taux de pauvreté n'était pas mesuré dans les zones rurales, qu'il l'était uniquement dans les zones urbaines. Ce que je voulais vous demander par là, Mariana Heredia, c'est que comment est-ce qu'on arrive à mesurer la pauvreté au-delà d'un taux sur des revenus, en essayant de comprendre aussi comment le démantèlement des services publics a aussi un impact sur les transports, sur l'école, sur tout un tas de programmes qui disent aussi quelque chose du niveau de vie.
Je pense que ce qui exprime l'expérience de Milley, c'est l'opacité de certaines conditions sociales qui ne sont pas bien saisies par les indicateurs qu'on utilise pour voir l'état de la société. Puisque, comme je vous dis, si on regarde des indicateurs qu'on utilise habituellement pour mesurer l'état de l'économie et de la société, on pourrait dire que l'Argentine va vraiment mieux qu'avant. Et en fait, c'est un effet très clair de l'instabilité des prix. C'est vrai, la situation à la fin de 2023, c'était désespérante. Les gens étaient vraiment très angoissés et vivaient une course entre les prix et les revenus. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a tout un tas de choses comme la situation des hôpitaux, des écoles, des services publics, des transports qui n'ont pas des indicateurs aussi habituels et aussi populaires dans la presse, mais qu'il suffit de marcher par les rues de Buenos Aires pour voir qu'il y a des gens qui dorment dans la rue de plus en plus dans des quartiers, y compris les quartiers plus chics dont parlait David tout à l'heure.
David oui, Coppello.
Je pense que pour comprendre cette dynamique de évolution des taux de pauvreté qui baisse, qui est associée à une politique d'austérité très radicale, et malgré tout au maintien d'un certain soutien électoral, en dépit de l'abstention, etc., que mentionnait Mariana Heredia tout à l'heure, je pense qu'il faut... Il faut considérer le fait qu'il y a un taux global de pauvreté qui évolue et qui a plutôt baissé sur le courant de l'année 2024, après avoir explosé dans les premiers mois du gouvernement Milei. Mais en fait, il y a des situations très diverses derrière ce taux global. Et ce qu'on voit, c'est que notamment des catégories de personnes parmi lesquelles les retraités, parmi lesquelles les employés publics, les fonctionnaires, sont particulièrement affectés par les coupes budgétaires menées par le gouvernement. Et le niveau de vie de ces catégories de population a très largement baissé. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces catégories de population n'étaient pas électeurs ou électrices de Milei au départ. Donc quelque part, si vous voulez, les électeurs qui avaient voté contre Milei il y a un an et demi, qu'on trouvait beaucoup parmi les fonctionnaires, parmi les personnes les plus âgées, puisque le vote Milei était très fort chez les très très jeunes, très très fort chez les très très jeunes. Donc en fait, c'est ces catégories de population qui étaient les moins milléistes qui ont été en partie le plus affectés par les réformes gouvernementales. Donc quelque part, c'est pas si surprenant que ça de voir un maintien d'une certaine popularité électorale, en tout cas, du milléisme. En tout cas, je pense qu'il y a un mystère autour de cette question par rapport à ce que mentionnait Marc Semeau tout à l'heure. Je pense qu'il y a un mystère et, à mon avis, la réponse à ce mystère, elle se situe de ce côté-là.
La question aujourd'hui est de savoir si les tendances macroéconomiques vont être durables et si Milei va pouvoir continuer à capitaliser politiquement dessus, à commencer par l'inflation qu'il a affichée comme une priorité. En avril, Mariana Heredia, le gouvernement a signé un nouveau prêt avec le FMI, 20 milliards de dollars et d'autres institutions internationales, financières. Le ministre de l'économie a déclaré que cet argent servirait à éponger la dette du trésor public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce paradoxe d'un endettement qui va servir à payer un endettement précédent?
Bah, c'est ce qu'on appelle en Argentine les vélos spéculateurs. C'est qu'en fait, on prend des dettes pour payer la dette et on continue à s'endetter pour payer aux créanciers. Donc, pour l'instant, tant que l'Argentine a une certaine confiance et arrive à se faire prêter de l'argent, bah, elle peut tenir une monnaie assez forte et une stabilité qui se fait référencier à ces monnaies. Mais dès que la situation financière internationale et locale changera, bah, tout s'effondrera. C'est pour ça qu'à la lumière de ce qu'on a vu dans les passés, bah, la soutenabilité de cette situation est quand même redoutable. On imagine qu'une crise peut arriver d'un moment à l'autre.
Donc cette baisse ou ce ralentissement de l'inflation qu'on observe depuis un an, il n'a pas des bases stables d'après vous? Est-ce qu'on peut imaginer que dans les mois, peut-être l'année à venir, ça va continuer? Voilà, la question, quelle est la base vraiment de ces indicateurs?
Oui, parce qu'en fait, le pari du gouvernement, c'est d'investir très fortement dans certaines ressources naturelles, notamment le pétrole non conventionnel et les minéraux, et que ce sont des activités qui vont avoir un impact sur les exportations du pays, donc ils vont pouvoir importer des dollars, donc ça va rendre les modèles tenables. Et c'est possible, donc c'est une question de temps. Il faut changer les expectatives donc des hommes d'affaires, encourager les investissements dans différentes activités, notamment dans les activités qui produisent des dollars, donc qui peuvent exporter de la richesse argentine. Et si le temps s'accorde d'une bonne manière, peut-être que le modèle sera tenable, avec des coûts sociaux et environnementaux clairs. Mais en tout cas, c'est ça le pari du gouvernement.
Alors ce modèle, justement, entre guillemets, Javier Milei commence à le faire valoir et le vanter sur la scène internationale. Il est actuellement en tournée en Europe, il sera en Italie, au Vatican, en Espagne, en France, puis en Israël. David Coppello, dans quelle ambition internationale s'inscrit Milei? Est-ce qu'il y a un enjeu pour lui à faire valoir un projet, déjà peut-être un bilan à l'international, et dans quel réseau d'alliances aussi il s'inscrit?
Alors ça, c'est une question intéressante dans la mesure où Milei accorde une importance centrale à sa projection vers l'international. Depuis qu'il est président, il a voyagé 26 fois à l'étranger. Si on prend un point de comparaison, il n'a à ce jour, je crois, visité que 11 des 24 provinces argentines. Donc il y a vraiment une direction de la présidence Milei, une projection de son image vers l'extérieur qui est tout à fait centrale. Milei, il s'insère dans ce qu'on appelle un grand réseau de l'extrême droite globale avec un certain nombre de particularités. Milei est beaucoup plus atlantiste, si je puis dire, que toute une partie de cette extrême droite qui est plus poutinienne ou qu'on pourrait retrouver aussi en Hongrie avec Orban, etc., etc. Donc Milei se rend en Italie pour rencontrer, je pense, Giorgia Meloni la semaine prochaine, qui est, disons, dans cette extrême droite globale, quelqu'un d'assez proche de lui. Milei, par ailleurs, a largement bénéficié de l'arrivée au pouvoir, enfin le retour au pouvoir de Donald Trump cette année, qui lui a permis en quelque sorte d'avoir un allié. C'est-à-dire, Milei a toujours été pro-états-unien et beaucoup plus que l'ensemble de la classe politique argentine, ou en tout cas que les péronistes et le centre-gauche. Le problème, c'est que jusqu'à l'année dernière, les États-Unis, c'était Biden, c'était une politique qui correspondait pas tout à fait à l'agenda idéologique de Milei, qui était aussi très anti-wokiste, etc. Un wokisme avec des guillemets, bien évidemment. Donc, il y avait quelque part une politique pro-états-unienne de Milei, mais qui correspondait pas à ce qui était à ce moment-là à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, à la Maison-Blanche, on a quelqu'un qui est complètement dans le programme milléiste. Bon, si ce n'est que, évidemment, certaines politiques publiques menées par Trump aujourd'hui, notamment sur les questions des droits de douane, correspondent pas tout à fait aux attentes du gouvernement argentin.
Marc Semaux.
Oui, c'est aussi une politique étrangère assez étonnante, parce que, par exemple, l'Argentine, finalement, qui avait été admise dans les BRICS, avec Milei, a finalement décidé de ne pas en être. C'est aussi, je pense, un des seuls chefs d'État ou de gouvernement au monde qui soutient ostensiblement Israël dans la guerre menée à Gaza, dans sa politique actuelle. Donc, en fait, il est quand même il singularise aussi beaucoup. Pourquoi fait-il ça?
Bah, il a mis ses affinités politiques viennent devant les intérêts nationaux. En fait, il a fait un pari comme quoi il veut que l'Argentine fasse partie d'un bloc derrière les États-Unis, même si pour l'Argentine, il y a des partenaires commerciaux qui sont plus importants, comme la Chine, qui est celle qui importe la plupart du soja argentin. Donc, c'est vrai que, comme disait David, il a bénéficié du virage à l'extrême droite droite importée par Trump aux États-Unis, mais c'est vrai aussi qu'il va bien au-delà, puisque le soutien à Israël est vraiment extraordinaire sur la scène internationale.
Oui, j'allais justement vous demander par rapport à l'alignement affiché avec les États-Unis, hein, qui est un alignement vraiment total. Est-ce que c'est de l'ordre de la proximité idéologique, sachant qu'ils ne sont pas complètement non plus raccord sur leur politique économique, par exemple, Milei n'est pas un protectionniste, bien au contraire, ou est-ce que c'est plus par pragmatisme en se disant que c'est l'alignement avec les États-Unis qui rapportera le plus d'intérêt à l'Argentine, à commencer par le soutien du FMI? Est-ce que c'est les deux? Voilà, comment est-ce que vous analysez cet alignement avec l'administration Trump?
Alors, je pense que du point de vue du gouvernement argentin, il y a clairement une volonté de, en s'alignant avec les États-Unis, essayer d'en tirer un certain nombre de rétributions. En ce qui concerne le prêt qui a été débloqué par le FMI, c'est pas quelque chose qui va être annoncé officiellement, mais visiblement, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump a joué favorablement pour débloquer ces 20 milliards de dollars qui ont été donc prêtés à l'Argentine et qui viennent s'ajouter aux 30 milliards que l'Argentine devait encore au FMI. L'Argentine est le pays le plus endetté auprès du FMI aujourd'hui, 4 fois plus que l'Ukraine. Ça, c'est une chose. Pardon, j'avais un deuxième point qui m'est complètement sorti de la tête en vous parlant.
Sur le rapport aux États-Unis.
Oui, sur le rapport aux États-Unis. Donc, il y a cet aspect lié au FMI. Ce qui est intéressant, c'est que...
C'est pas grave, ça va vous revenir.
Pardon, désolé,
Mariana Heredia, est-ce que vous vouliez intervenir sur ce point-là?
Ce qui est vrai, c'est que combien ça va être possible de le tenir dans le temps, puisque les États-Unis n'achètent pas des produits argentins. Nous sommes des concurrents sur la scène commerciale internationale, puisque nous produisons pratiquement la même chose. Donc, le partenariat avec la Chine était beaucoup plus profitable pour l'Argentine. Donc oui, il y a une dépendance financière claire par rapport aux États-Unis, mais si on regarde l'économie réelle, ou en tout cas les exportations de l'Argentine, c'est pas forcément un partenaire très intéressant, les États-Unis. Et les États-Unis sont assez seuls dans la région. Donc, c'est peut-être ça aussi ce qu'ils cherchent au Milei, c'est à se démarquer du reste de la région et à devenir l'allié crucial de Trump en Amérique latine.
David Kobel.
Oui, je reviens. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que du point de vue de ces négociations sur les droits de douane qui augmentent pour tout le monde, en fait, depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, ce qu'on voit, c'est que finalement, la proximité affichée par Milei avec le président américain ne sert pas à grand-chose. En fait, l'Argentine a le même traitement que la Colombie ou que le Brésil, qui sont présidés par des gens qui sont la némésis totale de Donald Trump, hein, des présidents de gauche, qui sont très mal vus à Washington en ce moment. Donc, de ce point de vue-là, ça ne sert pas à grand-chose pour l'Argentine, cet alignement, même s'il y a une volonté du gouvernement argentin que ça puisse le faire. Ce qui me permet d'évoquer un point qui me paraît intéressant, c'est qu'on parle beaucoup de Milei depuis un an et demi. C'est une personnalité qui a mis un peu l'Argentine sur la carte, même au niveau médiatique, etc. C'est quelque chose dont on parle beaucoup plus qu'avant. Mais il y a une forme de centralité un peu subalterne de ce personnage qui est Milei, qui est vu comme quelqu'un d'assez exotique, mais qui, dont les acquis, dont la capacité de négociation n'est pas non plus, est très, très limitée. Donc je pense que c'est aussi beaucoup lié à ça, cette centralité, cette omniprésence de Milei sur la scène internationale. Qui est vu de manière presque sympathique par un certain nombre de dirigeants. On se souvient de la photo partagée par Emmanuel Macron juste après l'élection de Milei avec un maillot de Boca Juniors floqué « Vive la liberté, bordel ». Voilà, une espèce de sympathie un peu étrange vis-à-vis de ce personnage qui est quand même assez inquiétant, qui ne se manifeste pas forcément par des rétributions vis-à-vis de l'Argentine.
Qui ne correspond pas au véritable rapport de force, vous voulez dire, entre l'Argentine et d'autres partenaires. Vous écoutez Culture Monde, les chercheurs David Coppello et Mariana Heredia sont nos invités pour parler de la situation économique et politique en Argentine, 18 mois après l'arrivée au pouvoir de Javier Milei. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons notre partenariat avec Cartooning for Peace, notre sujet d'actualité vu par les caricaturistes, c'est la bulle cartooning.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les vents, mon vieux.
Assis.
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine nous vient du Mexique. Il est signé Dario Castillejos, dit Dario. Il pourrait s'intituler « Tour de magie à la tronçonneuse ». On y voit le président argentin en prestidigitateur dans le célèbre tour de l'homme enfermé dans une boîte coupée en 3 morceaux. Une découpe, comme vous l'imaginez, réalisée avec l'outil fétiche du candidat, puis président Javier Milei. On ne sait si l'homme enfermé dans la boîte est encore en vie après une telle expérience. Ce qui est certain, c'est que le drapeau de la nation argentine qui recouvrait la boîte est lui irrémédiablement brisé. Un dessin à découvrir sur le fil de notre compte compte Blue Sky et sur la page internet de Culture Monde. Une réaction de nos invités à cette caricature, Mariana Heredia peut-être?
Bah oui, on voit bien la célébration du leader, la tronçonneuse qui est ce nutty magique, et puis ses corps qui est tranché, presque mort, et en tout cas on voit pas aussi clairement le sang, voilà le dramatisme, puisque effectivement, comme on disait, la manière dont on observe la réalité souvent est insensible à la situation qui souffrent les gens quotidiennement. En tout cas, c'est une belle synthèse qui va montrer donc tout son dramatisme, je pense, dans les mois qui viennent.
Plusieurs grèves générales ont été organisées en Argentine depuis 18 mois. La dernière, c'était le 10 avril, 36 heures d'action sociale avec à la fois des manifestations, des grèves. Est-ce que ces mouvements sociaux, David Coppello, permettent d'exercer une forme de pression sur le gouvernement? Est-ce qu'on en voit les effets ou est-ce qu'au contraire, le gouvernement reste droit dans ses bottes, voire reste conforté dans ses choix, dans un contexte de polarisation de la société argentine?
Il me semble qu'à ce stade, le gouvernement n'est pas sensiblement affecté par ces mobilisations qui, sur l'année et demie écoulée, ont été à la fois très massives à certaines occasions, mais aussi très ponctuelles. Vous mentionniez une grève générale qui dure 36 heures. Bon, de là à ce que ça affecte et ce que ça puisse faire pression sur le gouvernement, il y a quand même une distance. Donc je crois que la question, c'est à quel moment est-ce que des mouvements sociaux d'ampleur et capables de se mobiliser dans la durée vont émerger ou pas face au gouvernement. Là, on pourra parler effectivement de pression sociale. Pour le moment, ça reste quand même d'ordre, je dirais, très symbolique.
Mariana Heredia?
Et je pense aussi que ça montre les limites de la démocratie aujourd'hui, puisqu'il y a eu des mobilisations massives, comme celle de la défense de l'université, qui n'ont pas eu de conséquences dans les décisions du gouvernement. Parce que dans la mesure où il n'y a pas des organisations politiques qui puissent prendre ces protestations, ces demandes, et les porter dans les congrès ou dans les négociations avec le gouvernement, les gens sont très seuls. Et en plus, ça s'accompagne d'une censure croissante et d'une croissante violence aussi dans les mobilisations, parce qu'il faut dire qu'il y a eu des journalistes agressés, des gens mis en prison sans aucune raison. Donc je pense que ça pose des questions pour l'Argentine et pour le monde sur comment faire face à ces populismes de droite qui deviennent de plus en plus violents, tout en étant une caricature un peu enfantine, comme on disait tout à l'heure, autour de la figure de Javier Milei.
Il n'y a pas de relais politique au niveau de la gauche péroniste qui incarne aujourd'hui l'opposition de ces protestations, de ces mouvements sociaux et syndicaux jusqu'à présent, David Coppello?
Alors, il y a un relais. Le problème, c'est que l'opposition péroniste est sonnée par la défaite d'il y a un an et demi, qui est probablement sa plus grosse défaite depuis le retour à la démocratie. Sonnée et divisée, parce qu'elle est sujette à des guerres internes, notamment entre l'ex-présidente et vice-présidente Cristina Kirchner et celui qui apparaissait jusqu'ici comme son dauphin, qui est le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof. Une guerre intestine pour savoir qui va diriger le mouvement, qui divise le mouvement et qui l'affaiblit assez largement. Ce qui empêche aussi de donner un relais à toutes ces mobilisations sociales et à, malgré tout, l'hostilité qui existe dans l'opinion publique vis-à-vis de Milei. Je ne sais pas si elle est majoritaire, mais elle existe, cette hostilité. Et pour l'instant, le débouché politique n'est pas très clair. Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui incarne une unité qui puisse s'opposer au gouvernement actuel.
Vous le disiez l'un et l'autre, la question de l'économie, de l'inflation, ce sont aujourd'hui les priorités du gouvernement. Il y a d'autres sujets, évidemment, du gouvernement. Je pense à la question des politiques mémorielles en Argentine. Le pays est souvent montré en exemple comme celui qui a été le plus loin, à la fois dans les procès, dans la mémoire, sur la période de la dictature par rapport à ses voisins sur le continent. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une tentation de remettre en cause ces politiques là, et si oui, ça se manifeste comment, Mariana Heredia?
Je pense qu'il faut souligner que l'appui au président s'effondre surtout sur sa politique économique, sur cette sensation de soulagement qui a apporté la stabilité, cet espoir d'un pays qui puisse reprendre ses activités, sa croissance, etc. Alors que son agenda culturel, c'est plutôt une manière de se rapprocher aux droites globales. Je veux dire, quand on regarde ce que les gens pensent, la plupart des Argentins ne sont pas d'accord ni avec la politique mémorielle d'extrême droite, ni avec les discours anti-woke, ni avec l'antiféminisme que le président souligne de temps en temps. Le problème, c'est que quand même, les gouvernements avancent et font de la publicité avec, par exemple, des vidéos au jour de la commémoration du coup d'État en disant que la vérité a été racontée à moitié, qu'il y a eu aussi des victimes du côté des militaires. Ben voilà, ils essayent d'avancer donc une nouvelle interprétation sur le passé récent et des nouvelles politiques sur les autres domaines qui ne sont pas très populaires, mais qui arrivent quand même à se traduire dans des politiques et des discours officiels concrets.
David Coppello.
Oui, j'isolerai deux aspects qui permettent de quantifier, de mesurer cette attaque contre les politiques mémorielles qui est menée par le gouvernement actuel. Le premier, c'est la question des budgets. Donc, Milei a annoncé de manière tonitruante qu'il réduisait le nombre de ministères il y a un an et demi. Et très récemment, ce qui était jusqu'alors une institution forte pour la défense de la mémoire, la commémoration de la dictature, qui était le secrétariat d'État aux droits humains, a été rétrogradé en sous-secrétariat, ce qui réduit son budget et coupe le nombre de personnels affectés à cette institution étatique qui participe donc de la construction d'une mémoire de la dictature dans la démocratie. Ça, c'est un aspect. Et un deuxième aspect qui est plus spatial, il y a un endroit qui est très important pour la commémoration de la dictature à Buenos Aires, qui est l'ancienne, le principal camp de concentration de la dictature, qui s'appelle l'ESMA, l'école supérieure de mécanique de l'armée, qui est un lieu qui, depuis une vingtaine d'années, est entièrement dédié à la mémoire de la dictature. Il y a un musée, il y a des associations qui ont leur QG sur cet espace. Et il y a quelques semaines, le gouvernement a décidé d'affecter un des immeubles au ministère de la Justice pour la lutte contre, je ne sais plus quel exactement aspect du crime organisé. Donc, réintroduire, si vous voulez, une dimension de répression étatique à l'intérieur de cet espace qui était jusqu'alors, quelque part, préservé de cette dimension-là. Donc ça, c'est deux choses qui permettent vraiment d'isoler, de quantifier ce nouveau travail sur la mémoire qui est opéré par le gouvernement de Milei.
Esperando el milagro, en attendant le miracle, chantait le célèbre groupe de rock argentin Las Pelotas en 2003. Déjà, je vois que ça vous fait sourire, David Coppello. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappellerai pour vous, David Coppello, Les droits humains, armée, guérilla, dictature et démocratie en Argentine. Ça vient de paraître aux presses universitaires de Rennes. Merci beaucoup, Mariana Heredia, d'avoir été avec nous en direct depuis Buenos Aires. Votre ouvrage paru à la découverte. À quoi sert un économiste? Je vous salue et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, Marc Semo. À la semaine prochaine. Et lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouvez pour une série entièrement consacrée à Gaza. L'historien Jean-Pierre Filieu, qui a pu s'y rendre, témoignera de ce que la guerre fait à une société désormais en état de survie. Le réalisateur gazaoui Iyad Alastal nous parlera des habitants de Gaza, dont il a réalisé le portrait dans son dernier documentaire. Nous poserons aussi la question de l'avenir du projet national palestinien face à l'occupation et à la colonisation, et enfin du droit international humanitaire. Et dans un instant, les midis de culture.